Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct à la voix du fandom Star Wars pour cette nouvelle édition littérature où nous allons chroniquer deux volumes, les deux volumes de Star Wars 12 et 13 sortis chez Panini Comics. Je suis Loïc et je suis accompagné de Francis. Bonjour Francis.
Bonjour Loïc.
Voilà, nous en voilà encore en duo pour rattraper un peu notre retard, mais également prendre de l'avance puisque ce soir, dans cette émission, ce ne seront pas un mais deux albums que nous allons chroniquer, mais pas seulement puisque nous allons également évoquer tout doucement le début de planning des parutions Pocket pour l'année 2021. Donc je fais la petite précision avant de passer en hyperespace que nous avons décidé pour ces deux volumes de ne pas faire notre système habituel, c'est-à-dire de chroniquer le volume 12, de donner une note, puis de chroniquer le volume 13 et de donner une note. Nous allons faire une critique et une note globale pour les deux volumes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces deux volumes ne sont qu'une seule et même histoire. C'est une histoire en 8 épisodes, plus un annual, que Panini a décidé de couper en deux, voilà, pour certainement proposer plus de volume, mais aussi pour éviter d'avoir un tome qui serait quand même sur 9 épisodes assez volumineux et évidemment coûteux. Donc voilà, ça sera petite variation par rapport à d'habitude. Vous n'aurez qu'une seule note. Donc si nous vous conseillons d'acheter ces volumes, il faudra que vous achetiez les deux, évidemment. Et à l'inverse, si on vous conseille de ne pas vous les procurer, vous pourrez faire l'impasse sur les deux. Et votre banquier nous remerciera. Eh bien, c'est parti, on saute en hyperespace pour notre voyage aux confins de la galaxie.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Bien, donc avant d'entamer la critique à proprement parler de ces épisodes, nous avons fait le choix d'évoquer un peu le planning de parution Pocket pour le premier semestre 2021. Pocket qui avait donc annoncé le 24 décembre une table ronde, donc un live sur leur page Facebook accompagné de youtubeurs ou de collègues de Star Wars Universe pour évoquer donc les sorties. Donc je vais faire le listing et puis Francis, après tu pourras nous donner éventuellement tes avis, ce que tu penses un peu de ces... Donc je vais d'abord faire le planning et puis ensuite les autres petites annonces autour, on les évoquera juste à la fin. Donc on reprend donc en février donc avec Leia, princesse d'Alderaan, de Claudia Gray, qui était donc à la base, je le rappelle, un écrit jeune adulte, donc voilà. Et puis donc pour le mois de mars, c'est le mois d'avril, donc pour la fin de ces mois-là, les deux premiers volumes donc de Star Wars La Haute République, donc qui est cette nouvelle ère Star Wars un peu cross-média qui nous attend pour ces prochaines années, qui se passe donc 200 ans chronologiquement avant l'épisode 1. Donc le premier volume de Charles Soule intitulé La Lumière des Jedi. Et le second, c'est Claudia Gray qui est à l'écrit et le volume se nomme En pleine ténèbre. Voilà, donc ça, c'est les deux premières sorties donc, de la Haute République en VF pour les mois de mars et mois d'avril. Et en juin, enfin, on a donc le volume également qui était une parution jeune adulte, donc Poe Dameron Free Fall. Voilà, Francis, déjà tes impressions sur ce planning, sur ces parutions de la Haute République. Donc j'ai pas précisé, mais elles sont vraiment collées serrées avec les parutions VO, puisque ces deux livres vont paraître en janvier aux États-Unis, donc on va à peine avoir 2 à 3 mois d'écart avec la traduction VF.
Ouais, on peut peut-être revenir très rapidement, c'est ça, Leia, Princess of Alderaan, Princesse d'Alderaan en français. On l'avait déjà, l'information, Pocket nous l'avait révélé cet automne. C'est une très bonne nouvelle. Je pense que beaucoup de gens attendaient ce volume-là. C'est le, peut-être le plus en retard aussi.
Ah oui, ça fait un moment qu'il est sorti.
Vraiment. Oui, et personnellement, je comprenais vraiment pas pourquoi Pocket l'avait pas priorisé avant ça. Là, fait que dans le fond, c'est ça, c'était pas une surprise de l'avoir enfin. Tu vois, rapidement, quand je regarde là, les membres de l'équipe, on lui avait donné d'excellentes notes. Là, Danny lui avait donné un 18, Jean-François 19. Moi, j'avais donné un 17, Cécilie un 18. Donc, ça vous donne une idée. Là, c'est vraiment un très bon petit livre. Je dis petit dans le sens que c'est un jeune adulte. Mais c'est ça, bien hâte de relire ça en français, j'avais beaucoup apprécié. Et quelques surprises là-dedans aussi que je ne m'attendais pas. C'était un livre qui était sous le label là, Voyage vers l'épisode 8, donc Les Derniers Jedi. Donc attendez-vous quand même à retrouver des personnages du film de Rian Johnson. Mais pas que, hein, le film, c'est ça, se passe pendant la jeunesse de Leia. Donc c'est ça, une époque où Alderaan est encore là et que Leia fait ses premières armes en politique intergalactique. Donc c'est ça, beaucoup apprécié ce volume-là, je vous le conseille. Sinon, comme tu as dit, pour ce qui est des deux volumes de La Haute République, donc La Lumière des Jedi de Charles Soule, moi c'est quelque chose que j'attends, même si les gens qui écoutent le podcast savent peut-être que je suis pas du tout un tripeux de tout ce qui est l'ordre Jedi ou les Sith ou les Jedi en grande quantité là, comme dans le temps de la trilogie ou tout ce qui est spirituel, tout ça, c'est pas mon dada du tout, mais écoute, l'auteur c'est Charles Soule et moi Charles Soule m'a conquis avec ses différentes BD depuis un certain temps. On savait qu'il écrivait des romans non Star Wars, donc j'avais bien hâte que Lucasfilm lui confie dans le fond là, une œuvre vraiment complète Star Wars, parce qu'en BD je trouve que vraiment tout ce qui touche c'est des pépites tout le temps, et ça sort le 5 janvier, donc c'est vraiment sous peu, et comme tu disais 25 mars en français, donc ça va être à peine 2 mois et demi de délai. Et même chose pour Into the Dark, donc dans les ténèbres, si je me souviens bien de la traduction. En pleine ténèbre. Donc celui-là de Claudia Gray. Donc Claudia Gray, c'est elle aussi qui a fait Leia Princesse d'Alderaan, mais c'est elle qui avait fait Étoile perdue, Maître et apprenti, Lien
du sang. C'est presque la Luceno du nouveau canon.
Ben j'irai pas jusque là parce que j'irai pas jusque là.
Non, la comparaison était un peu hasardeuse, mais ça reste une des auteurs les plus prolifiques qui arrive à tisser des liens dans toutes ses œuvres.
Ben elle est très appréciée en général, effectivement. Elle fait pas de mauvais produits, mais c'est ça. Je sais que toi aussi t'avais moins apprécié Lien du sang, tout comme moi, et j'avais été assez critique aussi de Maître et apprenti. Fait que c'est ça, je crois que sur certains types d'œuvres, elle est plus efficace. Par exemple, Étoile perdue et Leia, princesse d'Alderaan, c'était des romans jeunes adultes. Donc on rappelle, les jeunes adultes, c'est que le récit tourne autour de la construction personnelle, hein, de l'évolution du personnage vers le fait de devenir adulte, pas nécessairement juste en âge, mais c'est ça, en termes de maturité, on va dire, hein. Fait que cette fois-ci, c'est ça aussi. Elle, c'est... En pleine ténèbre, c'est un roman jeune adulte. Et en anglais, il sort le 2 février, donc, et en français, ça va être le 22 avril. Donc, encore une fois, un délai très, très serré. Je crois qu'on peut affirmer, sans trop se tromper, que ce qui a permis à Pocket d'avoir des délais aussi courts, même avec un roman pleine grandeur, là, celui de Charles Soule, ben, c'est le fait que les romans étaient prévus à la base pour sortir en septembre.
Ah ben, tout à fait.
Et ont été retardés à 2021. Du côté de Derry et du côté de, comment ça s'appelle, c'est Disney, je sais plus quoi, le publishing pour les jeunes adultes, mais bref, c'est ça, c'est ce qui a permis ça. Donc c'est une bonne nouvelle pour ce qui est des lecteurs francophones comme nous. À ce moment-là, est-ce que ça vaut la peine de les prendre en anglais juste pour 2 mois de délai? Ben ça, c'est à vous de juger.
Si, pour faire la chronique sur Star Wars en direct, c'est utile.
Oui, effectivement, merci Loïc de me forcer la main. Bref, c'est ça pour les deux.
Alors, je précise tout de suite justement que Lucille a parlé donc de la suite, donc des suites de parution de La Haute République, et elle a précisé évidemment qu'il faudrait être un petit peu plus patient pour avoir les autres romans donc de la Haute République, et qu'ils ne sortiront pas avec un délai aussi court que celui qu'on a eu là. Et il reste également un roman jeunesse qui s'appelle Test of Courage en VO. Elle a annoncé qu'il paraîtrait bien en France, mais elle ne sait pas encore dans quel format. Alors évidemment, ça correspondrait plus peut-être à la Bibliothèque Verte.
Exact. Ben, c'est ça, c'est que Lucille travaille pas, elle est pas porte-parole pour Hachette.
Non.
Là, donc,
mais effectivement, si c'est sous le label Bibliothèque Verte, ça sera un des rares livres Bibliothèque Verte que j'achèterai pour moi-même.
Ah, ok, tu vois. Non, effectivement, Bibliothèque Verte, les gens croient parfois aussi que c'est juste les formats plus courts qu'on a eu dans les dernières années là, de 128 pages, mais il y en a eu plus récemment, là, des plus volumineux quand même. Donc, ouais, même chez Bibliothèque Verte, il peut y avoir des produits intéressants. On y reviendra bientôt dans un Star Wars jeunesse. Et pour revenir au Planning Pocket, moi, vraiment, ma surprise, honnêtement, dans ce planning-là, c'est le quatrième volume annoncé, donc celui pour le mois de juin, qui est la traduction de Poe Dameron Freefall, donc qui sera traduit par Chute Libre. Honnêtement, j'aurais pas cru ça du tout. C'est un roman qu'on a critiqué l'été dernier, moi et Cécilie, et tu vois, pour te donner une idée rapide, je lui ai donné un 13 sur 20, et Cécilie encore pire, un 11 sur 20. Et ailleurs, chez les autres critiques aussi, ça c'était pas glorieux. Donc c'est un jeune adulte, ça aussi, et c'est ça, je crois que c'est manqué. Objectif raté là, pour Dameron Freefall, donc je comprends pas trop l'intérêt pour Pocket de le sortir en priorité avant toutes sortes d'autres suites et d'autres œuvres, parce qu'on sait qu'il y a le deuxième Alphabet Squadron qui est en chantier chez Pocket, donc Shadowfall, on a Queen Spiral, on a Black Spire qui a toujours pas été traduit, on va avoir le nouveau Tron, Tron Ascendancy, l'ascendance Tron, j'imagine, je sais pas comment ils vont traduire ça, mais bref, c'est ça, fait que c'est un choix qui m'a surpris, bref, d'avoir Poe Dameron. Peut-être que leur idée est de profiter du fait qu'on est encore pas si éloigné de la postlogie, puis des films de la postlogie, alors que, mettons, dans un an, si rien du tout sorti là, en anglais en lien avec Poe Dameron, ben là, peut-être que c'est ça, là. Il voulait peut-être profiter du fait qu'on est encore, encore frais dans notre mémoire.
Bah, d'ailleurs, Lucille a précisé également qu'il y aurait 7 romans au programme en 2021. Donc 6 romans inédits. Voilà. Alors ça fait 6 romans inédits. Là, on en a déjà quand même 4 annoncés pour le premier trimestre. Ça veut dire qu'il en reste 2 pour le second trimestre seulement, plus la novélisation de l'épisode 9 en format de poche.
Ouais. Ben ça, c'est une excellente nouvelle là, qui passe de 6 à 7 là,
mais ça reste quand même
peu. Ben c'est qu'avec oui et non, dans le sens qu'avec l'arrivée de la Haute République, c'est ça aussi là, c'est que là, déjà annoncé, on en a 4 pour 2021 de la Haute République, des adultes et jeunes adultes, donc c'est sûr que Pocket, s'ils veulent pas accumuler trop de retard non plus, c'est peut-être une décision qui s'imposait. Par contre, pour nous, les lecteurs, faut comprendre aussi que là, il n'y a pas de films qui sortent. Donc, normalement, on avait aussi une adaptation de film du côté de chez Outre-Fleuve, que là, on n'en aura pas. Lucille a précisé que Outre-Fleuve, même s'il aurait pu faire autre chose qu'un film, pour l'instant, il n'y en aura pas. Donc, à ce moment-là, ben, c'est ça. Pour nous, les lecteurs, ça revient quand même un peu au même. Là.
Et c'est surtout sur le planning de l'année prochaine où ben, il y aura une place. S'il reste sur ce volume de 7 romans inédits l'année prochaine, ou peut-être 8, puisqu'il n'y a pas de novélisation, peut-être qu'on pourra même rattraper encore plus de retard l'année prochaine.
Voilà. Ben, en fait, tout dépend. Tu sais, quand il est question de rattraper du retard, c'est parce que ça dépend toujours des sorties aux États-Unis.
Oui.
Et les sorties de la Haute République ont pas l'air de vraiment diminuer les autres sorties. Timothy Zahn est encore à l'œuvre. Alexander Freed aussi avec son dernier volume de Alphabet Squadron. C'est ça. Évidemment, il n'y a pas de film. Donc, il y avait toujours des livres associés au film qui sortaient. Mais c'est ça, en tout cas, on se croise les doigts là, pour qu'effectivement il n'y ait pas de retard qui s'accumule. Mais c'est ça, on peut s'attendre probablement au deuxième volume de l'escadron alphabet chez Pocket pour le reste de l'année, là, parce que je crois que le traducteur l'avait précisé, et Lucille aussi, là, qui travaillait dessus. Et bon, Tron, étant le produit, un des produits qui se vend le mieux en littérature Star Wars, ben, je pense qu'on peut peut-être s'attendre aussi au premier volume, là, peut-être pour l'automne prochain ou quelque chose comme ça.
Pour les amateurs de publications légendes, donc il n'y aura pas d'inédit cette année, comme elle l'a précisé. Par contre, ils vont essayer de rendre accessibles des romans indisponibles qui, sur le marché secondaire, se revendent de manière à des prix beaucoup trop indécents via des circuits courts de réimpression. Donc évidemment, on n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Et il y en a déjà certains qui se demandent si ce que tu as fait toi, Francis, avec ton recueil de nouvelles ne pourrait pas être, entre guillemets, une planche de salut pour ceux qui cherchent à réacquérir ces romans épuisés. C'est-à-dire, en fait, je vais expliquer pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que tu as fait. Tu as lancé à l'impression, en fait, presque sur commande, la possibilité, en fait, d'éditer un ensemble de nouvelles, mais sous un format livre, donc relié comme si c'était un PKJ de l'époque, un plus grand format. Donc effectivement, on pourrait imaginer que Lucille, alors à des prix peut-être pas le prix d'un pocket, mais pourquoi pas double du prix, ben voilà, dire ben vous pouvez, si vous le souhaitez, commander votre volume de République Commando au prix de 20€. Et si vous le voulez, ben vous lancez la commande à l'imprimeur et il arrivera directement chez vous. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors je ne sais pas, voilà, ça reste une théorie, on n'a pas d'informations supplémentaires pour le moment.
Non, mais c'est ça, c'est de la spéculation. Parce que Lucille a précisé que la maison d'édition avait déjà son service, on va dire, de mini-impression en petite quantité, sauf qu'on parlait quand même de quelques centaines de copies. Donc, on n'est pas non plus dans de la commande comme moi j'ai fait là, à l'unité.
Quelques centaines à l'échelle d'une réimpression pour Pocket, ça peut être suffisant si, dans ce cas-là, ils l'approvisionnent en direct sur leur site, on peut imaginer. Parce qu'effectivement, si tu le mets en vente, enfin, si tu as, je sais pas, t'as 200 exemplaires de romans et que tu veux les dispatcher à travers toute la France, c'est sûr que ça risque d'être soit compliqué, soit coûteux, soit ridicule. Donc effectivement, faudra trouver une autre façon de les commander.
Ben c'est ça, avec ces services-là qui existent déjà, reste à voir aussi les ententes commerciales qu'ils peuvent prendre tout à avec fait. Une maison comme Pocket, en termes de marge de profit, tout ça. Mais bon, j'ai jamais fermé, on m'a posé la question plusieurs fois, j'ai jamais fermé l'idée aussi à créer quelque chose de façon complètement illégale, évidemment. Mais dans le sens où un service d'impression, c'est un service d'impression. Hein, donc, si vous avez une copie numérique pour laquelle vous avez payé, cette copie-là, quand même, vous appartient. Donc, quelqu'un qui voudrait, par exemple, se créer une version matérialisée de ce qu'il y a en version numérique. Je crois que c'est quelque chose de techniquement faisable, même si je vous dis pas que c'est déjà prêt, là, vous avez juste à peser sur Go, mais c'est techniquement faisable. Et les versions, comme tu mentionnais, difficiles à trouver en matériel, si je me trompe pas, sont disponibles en version numérique chez, comment ça s'appelle, Dose 21, la version numérique là, chez Pocket.
Oui, je sais pas, tu me poses une colle, je sais plus du tout comment ça s'appelle.
Ben, je dis pas que tout est disponible de l'ancien canon, là, je veux dire des légendes Star Wars, mais n'empêche, Lucille le mentionne assez régulièrement que c'est ça, ceux qui cherchent des choses qui sont plus disponibles en version matérielle, souvent ça l'est quand même en version numérique là, pour des liseuses. Là.
Mais c'est pas la même chose, Francis. Il y a des gens qui cherchent aussi le roman pour la collection.
Tout à fait, ben effectivement, moi-même je suis le premier, c'est pour ça que j'ai fait le recueil de nouvelles.
Très bien. Francis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces annonces avant qu'on lance notre gros sujet?
Non, allons-y avec la conclusion de la série principale, Star Wars.
Tout à fait, comme tu le dis, la conclusion de la série principale, puisqu'il s'agit des deux derniers volumes avant le nouveau enfin la nouvelle remise à zéro, hein, le nouveau relaunch au numéro 1, qui changera également d'air, hein, puisque là, on est toujours avant l'épisode 5, on se rapproche de l'Empire Contre-Attaque, mais les prochaines séries donc se passeront après l'Empire Contre-Attaque, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir l'année prochaine.
Rappelons quand même, rappelons juste pour le plaisir, que quand on ne savait pas encore quand est-ce qu'allait se dérouler la deuxième, la nouvelle version, tu étais de ceux qui voulaient surtout pas que ça se passe après l'Empire.
Exactement, c'est vrai.
Et
c'est vrai.
Moi, j'étais dans le camp inverse, je désirais enfin des histoires qui se passeraient entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Donc, je suis très content. Je suis très content d'avoir gagné dans ce duel.
Non, moi, ce qui m'agace plus, c'est le côté... comblage de trous, voilà. Maintenant, j'ai déjà fait un peu de feuilletage des épisodes en VO pour me faire un premier avis, un peu savoir si ça allait m'intéresser. J'ai pas détesté. Donc voilà, on y reviendra l'année prochaine, chaque chose en son temps. Donc volume 12 et 13 de Star Wars, avec pour les deux au scénario Greg Pak et au dessin Phil Noto. Donc après le châtiment de Shutorun, les rebelles doivent encore se regrouper pour échapper à l'Empire qui est en train de les traquer plus que jamais, puisqu'on apprend déjà que des milliers de droïdes sondes parcourent la galaxie pour retrouver les traces des rebelles et de leur base. Donc le général Raikan va diviser notre groupe de héros en trois et va les envoyer chacun sur une mission dont le but évidemment sera d'anéantir l'Empire et de les détourner de leur recherche, enfin de les empêcher de retrouver la flotte. Donc Luke lui est chargé de détourner l'attention de l'Empire qui s'approche dangereusement d'une base rebelle. Au cours de cette mission, il va rencontrer une nouvelle alliée qui même pourrait être, n'ayons pas peur des mots, qui aurait pu ou pourra être un intérêt amoureux pour lui, puisqu'il y a une certaine connexion entre deux. Leia et Han, eux, sont envoyés chez un chef criminel collaborationniste pour essayer de faire croire à l'Empire qu'en fait il collabore avec les rebelles et qu'il n'est pas affilié à l'Empereur comme il essaye de le faire croire. Et Chewbacca et C-3PO, eux, donc, sont envoyés sur une planète instable dans le but de créer un piège. En fait, Luke et Leia, Han doivent attirer le maximum de la flotte impériale vers la planète sur laquelle se trouvent Chewie et C-3PO, qui, eux, préparent donc ce fameux piège qui sera de faire exploser la planète pour faire exploser le maximum de croiseurs de l'Empire et ainsi espérer se débarrasser du plus de flotte et d'officiers possibles. Voilà, donc Leia et Han, eux, rencontreront donc en allié un ancien petit ami de Leia, de l'époque où elle était, où elle apprenait à être régente à l'école des rois et des reines. Et donc C-3PO et Chewbacca, eux, tomberont sur des alliés que sont un peuple de pierre qui habite en fait sur la planète qu'ils sont chargés de détruire, ce qui évidemment va mener un peu à mal leur plan, puisque ce sont... Alors, C-3PO est un être de métal, mais c'est aussi un être vivant, quelque part, doté d'une conscience, tout comme Chewie. Et évidemment, ils vont avoir du mal à faire exploser une planète qui abrite la vie consciemment pour mener à bien leur plan. Donc voilà pour le résumé de ces épisodes. Évidemment, ils vont passer par tout un tas de péripéties. Ceux qui en rencontreront le plus sont Leia et Han Solo, puisque évidemment leur plan ne va pas se dérouler comme prévu, de mensonges en trahison, avec leur nouvel allié qui en fait ne l'est pas toujours. C-3PO et Chewbacca, eux, en fait, vont devoir faire face rapidement à Dark Vador, qui va lui débarquer toujours dans sa recherche de Luke Skywalker. Donc il suit un peu le Faucon Millenium, et puis il se rendre sur la planète pour essayer d'attraper son fils, évidemment qui n'est pas encore arrivé. Luke, lui, donc, il va réussir un peu haut la main, un peu sa petite mission. L'Empire ne sera pas attiré vers ça. Alors c'est même pas une base rebelle, en fait, c'est plus un poste avancé. Il y a quoi ? Il y a trois chasseurs, un transporteur et presque une vingtaine de soldats. Donc on va se demander même stratégiquement pourquoi il doit aller défendre ces personnages. Mais en fait, c'est plus la quête qui va le mener à cet allié qui va faire croire à Luke qu'elle connaît très bien la Force, qui va lui expliquer un peu le fondement des gardiens des Wills, qu'il n'a pas encore forcément rencontré, encore que. Voilà, et donc en fait, la mission de Luke est extrêmement secondaire. Hein, c'est un petit peu toujours cette quête du savoir des Jedi, de l'histoire des Jedi qui se poursuit. Donc voilà. Et puis, évidemment, tous les trois groupes vont se rejoindre sur la planète pour faire face ensemble à Dark Vador. Et puis, bien évidemment, alors leur plan sera mené à exécution, c'est-à-dire que il y aura bien une explosion de planète, il y aura bien une destruction impériale, mais pas aussi intense et pas aussi forte que le plan qui avait été commandé par le général Raikan. Donc voilà un peu ce qui se passe dans ces deux volumes. Donc ces deux volumes, c'est un ensemble de 8 épisodes, hein, plus un annuel sur lequel on reviendra tout à l'heure. C'est le choix de Panini donc a été donc comme on l'a dit de le séparer en deux, peut-être pour une des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Maintenant, les deux volumes sont liés. On n'imagine pas pouvoir prendre le volume 13 sans avoir lu le volume 12, et on n'imagine pas prendre le volume 12 sans avoir la conclusion dans le volume 13. Ça n'aurait absolument aucun sens. Voilà. Avant de vous donner ma critique, moi je vais laisser toi, Francis, tu vas pouvoir enchaîner. À la fois sur ta critique et sur tes remarques un peu sur ces épisodes ou les remarques d'ordre général plus sur la publication.
Ouais, écoute, moi peut-être faire un avertissement de transparence. Personnellement, j'adore Phil Noto. Écoute, je ne m'en cache pas. J'ai toujours adoré. Je trouve que c'est un dessinateur en plus complet, visiblement, qui prend le temps. Qui doit être pris, je sais qu'il l'a échappé je me souviens plus sur quel album là, mais par le passé, mais c'est quelqu'un qui travaille presque exclusivement sur du Star Wars maintenant. Il fait beaucoup de couvertures, même quand il fait pas l'intérieur des albums.
Tu parles de Phil Noto, hein, c'est ça?
De Phil Noto, oui. Exact. Et il fait même des couvertures de romans. On parlait de Poe Dameron tantôt, c'est lui par exemple qui a fait la couverture du roman. Donc c'est ça, c'est un style graphique que j'adore, mais je sais que certaines personnes aiment pas du tout.
Ben on va en reparler un petit peu après.
C'est ça, c'est clivant, mais bon. Sinon, on va peut-être juste mentionner ça sera pas le cas en anglais. Donc, les gens qui prennent uniquement les albums en français, les gens qui prennent uniquement les albums Panini n'auront pas ce problème-là. Mais en anglais, l'arc au complet, donc les 8 épisodes, avait une grosse bannière dans le haut qui disait Destination Hot. Donc, oui. Il y avait un marketing qui nous vendait que là, vraiment, on arrive à l'Empire contre-attaque. On n'est pas déçu. Dès la première page du premier volume, premier numéro, on est dans un croiseur, si je ne me trompe pas, interstellaire, qui déploie des droïdes sondes.
Alors, ça va être vraiment le seul lien. Hein.
Ben voilà ça, je voulais en venir plus loin, mais c'est ça. Côté marketing, ça n'est que du marketing, encore une fois, malheureusement. T'as mentionné, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des détails, mais c'est quand même 8 numéros, là, fait qu'il y a quand même un peu de stock. Même si parfois on est dans de l'action, donc ça passe quand même assez vite. Mais c'est ça, on a trois missions, une dans le noyau, une dans la bordure intérieure et une autre dans l'espace sauvage. C'est très inégal d'une à l'autre, je trouve, en termes d'intérêt, en termes de logique, en termes de tout. Celle de Leia et Han, j'ai trouvé qu'elle était intéressante. Celle de Chewie et C-3PO, j'ai trouvé que c'était digne d'un comics jeunesse chez IDW. Et à l'inverse, pour finir, celle de Luke, j'ai trouvé que c'était d'un ennui inintéressant. Vraiment sans intérêt, on se demande vraiment pourquoi trois missions au lieu de deux. Comme tu dis, Luke va rencontrer quelqu'un qui est un peu sensible à la Force, qui a côtoyé les gardiens des Wills, tout ça. Donc, Luke va apprendre. Ça peut être l'aspect intéressant. Mais à la base, la mission qui lui est confiée, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi il est allé là? Comme tu disais, là, pour défendre, on va dire, un petit avant-poste, là, que c'était pas plus simple d'envoyer un signal puis de dire évacuer.
Bah oui, oui, surtout qu'au final, ils finissent quand même par le faire. Et exact, que Luke ne leur apporte pas d'aide, puisqu'au final, ce sont les quelques rebelles qui sont présents sur place qui vont presque l'aider lui.
Ouais, exact, exact. Et puis, mais sinon, c'était bien parti. Je trouvais qu'au départ, c'était bien parti. C'est le général Riken, donc celui de l'Empire contre-attaque, qu'on va aussi retrouver dans la postlogie plus tard, là, dans le roman Renaissance. Mais donc, le général Riken qui sépare l'équipe en trois avec trois missions. De Leia et Han, j'ai trouvé qu'il était tout à fait logique dans le sens de la rébellion à ce moment-là. Le but est de diviser les impériaux entre eux, de monter l'Empire contre un empire criminel, on va dire. Donc, qui collabore, comme tu disais, avec l'Empire et qui a tué beaucoup de rebelles, je crois, si je ne me trompe
pas. Oui, c'est ça. Il parle de plusieurs centaines de rebelles, en fait, qui ont été dénoncés par cette... Par ce salopard, et donc Leia évidemment veut mettre fin à ses agissements pour protéger ses agents, ses espions.
C'est ça, donc tout cet aspect-là, j'ai trouvé que c'était tout à fait logique. Sinon, l'autre côté, celle-là, je disais un peu plus jeunesse, bon, il y a une certaine logique aussi à tendre un piège à l'Empire, même si faire exploser une planète, mais tu sais, c'est ça, Riken le mentionne lui-même, il dit ça va être notre étoile de la mort à nous, tu sais, le... Mais tu confies une mission aussi importante à juste deux personnes?
Pas deux personnes, puisqu'en fait, le but de Leia et Han, c'est d'attirer les impériaux en envoyant le signal via les bases de ce chef criminel pour faire croire à l'Empire que, voilà, pour en attirer le maximum vers cette planète pour les faire sauter derrière. Donc, pour le coup, il y a un vrai lien entre leurs deux missions. Mais c'est vrai que c'est presque un peu torturé. Quelque part, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de poster un croiseur rebelle en orbite, d'envoyer un signal à l'Empire pour tous les attirer et de faire passer le croiseur en hyperespace au moment où la flotte arrivait et de faire exploser la planète derrière? Ça aurait été beaucoup plus simple.
Ben, c'est sûr qu'on va, tu sais, il faut quand même mentionner que en termes de commande pour Greg Pak, là, l'auteur, c'est ça, on lui dit, il te reste 8 numéros pour finir la série puis arriver à l'Empire contre-attaque. Donc, je comprends que. C'est ça, il a fait ce qu'il pouvait pour imaginer une histoire qui ne révélerait, tu sais, qui gâcherait rien sur la suite. Mais en même temps, est-ce qu'on lui avait dit, ça serait bien de faire une vraie conclusion à la série Star Wars? C'est ça, c'est comme si ça n'avait pas été mentionné.
Moi, j'ai une idée de ce qu'il aurait pu faire, parce que je l'avais évoqué déjà, je pense, il y a longtemps, puisque ça fait quand même un moment qu'on parle de cette série. Il manque quelque chose, Francis. Dans l'Empire contre-attaque, on a bien Han Solo qui dit à un moment donné à la princesse Leia, le chasseur de primes qu'on a rencontré sur Ord Mantell nous a fait changer d'avis. T'avais 8 épisodes, c'était parfaitement le moment de raconter une histoire qui fait référence à cette phrase-là. Encore une fois, alors moi j'aime beaucoup le fait qu'on nous comble un peu le trou entre le 4 et le 5, vraiment, on va dire, quasiment de manière complète. Mais du coup, en fait, on n'a pas vu toutes les aventures de nos amis pendant ces 3 ans. Hein. Parce qu'au final, il y a des choses qu'on ne nous a pas montrées, quoi.
Non, et c'est tellement évident, cette fameuse histoire-là de Ord Mantell. Puis tu sais, moi, je suis le premier à m'en foutre complètement de ne pas l'avoir vu. Mais je me dis, si vous voulez développer des histoires, mais il me semble que c'est simple de développer celle-là.
C'est ça, quitte à faire une histoire qui n'a pas de, entre guillemets, d'intérêt ou de grandeur dans les enjeux, faites-nous ce genre d'histoire.
Et ça aurait parfaitement raccroché avec, comme tu dis, la déclaration de Han. Qui, là, il dit, voilà, faut que j'aille payer parce que là, c'est ça. Ça suffit. Là,
et puis en plus, je veux dire, on a ce fameux logo, donc la route vers, en route vers Hoth. Là, au moins, on avait un vrai lien avec ce qui se passe sur Hoth directement au début de l'Empire contre-attaque. Voilà. Moi, ça va être ma plus grosse critique pour ce volume, c'est que au final, j'ai bien aimé toute la partie Leia et Luke. Leia et Han Solo, pardon. Par contre, j'ai pas du tout aimé le reste. Je me suis profondément ennuyé, à la fois dans la partie Luke et à la fois dans la partie Chewbacca et S3PO. Et je trouve que le fait d'avoir amené Vador, encore une fois, non. On casse en fait toute la dramaturgie qu'il y a sur l'intensité qu'il y a quand les personnages font face à Vador. Parce que là, ça fait déjà combien de fois qu'il le rencontre? Ça fait déjà...
Honnêtement, j'ai arrêté de compter, mais je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, là, coudonc, dans l'Empire contre-attaque, ça va être quoi, la 12e fois qu'il croise Vador?
Et puis pourtant, on a l'impression que c'est la première fois, alors... Et alors, je sais pas pour toi, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi, c'est qu'à un moment donné, quand ils font face tous à Vador, ils vont lui tirer dessus et Vador va arrêter les blasters avec la paume de sa main, tout comme il le fait dans l'Empire contre-attaque. Et du coup, en fait, ça rend cette scène dans l'Empire contre-attaque absolument stupide, puisque si Han Solo sait que Dark Vador est capable d'arrêter les tirs de blaster, pourquoi est-ce qu'il lui tire dessus quand il ouvre la porte et qu'il le voit?
Ouais, ben c'est ça, il y a un petit côté réflexe là-dedans aussi, mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Vador était de trop, je crois, dans cet épisode-là. C'était le réflexe trop facile, je crois, de l'auteur là, de ramener Vador.
Ben, j'aurais préféré avoir Boba Fett travaillant pour le compte de l'Empereur, pour le compte de Vador. Ou un autre chasseur de primes qu'on connaît, hein, pourquoi pas, et puis à qui il confie...
Un impérial quelconque.
Ouais, ou un impérial quelconque, ou à qui il confie une escouade impériale en disant « Bah, je vous file mes soldats, allez m'arrêter ce mec-là, et puis ramenez-le-moi, quoi. » Donc, il y avait quand même autre chose à faire.
Je te rejoue. Ben, c'est sûr que là, il y avait l'aspect qu'on ne l'a pas mentionné, mais c'est ça, sur la fameuse planète à détruire, c'est 3PO, et Chewie se rend compte que même s'il n'y a pas de vie organique, il y a des vies minérales, on va dire ça comme ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans Star Wars, et même dans la série de comics Star Wars, c'est la deuxième fois. Ouais. J'avais détesté ça la première fois. Je peux dire
c'était
que
avec
c'est
Yoda.
Encore le cas. Oui, c'est ça, le cinquième album, si je ne me trompe pas, avec Yoda. Mais c'est ça, c'est encore le cas ici, même si je comprends, mais quand je disais qu'on est dans le style un peu plus jeunesse, c'est ça. Tu sais, on est dans, sur une planète que... mais c'est ça, encore, et C-3PO est vu encore une fois comme un allié, alors que le reste de l'équipe, non. Fait qu'un peu la référence au Ewok, là, ici. Mais c'est ça, et le problème, c'est que, comme tu dis, c'est qu'à la fin... au lieu de tout ramener vers l'histoire des trois qui est intéressante, ben là c'est l'inverse, ils nous ramènent tout vers l'histoire qui est pas intéressante. fait qu'il y a cet aspect là. Ben, je vais quand même mentionner un peu de positif là-dedans, la fameuse planète du noyau. Moi j'étais quand même content qu'enfin les rebelles aillent dans le noyau, hein, parce que on est toujours dans la bordure extérieure ou bordure intérieure, tout ça, ou dans l'espace sauvage. Là enfin on a une planète développée, etc. On a un petit côté Coruscant, un petit côté Blade Runner, mais tu sais, vraiment en plus propre. Hein, on sent qu'on n'est pas... bon, évidemment, dans ce qu'on voit, là, c'est plus propre. J'ai pas détesté le personnage créé aussi pour cet arc-là, le procureur général ou procureur régional.
Procureur d'art champion.
D'art champion, ouais, c'est ça. Et le petit côté Han Solo qui dit c'est vraiment son nom de famille, et Leia qui se tourne vers lui et dit toi, tu t'appelles vraiment Solo. Mais non, j'ai bien aimé. Et la chimie entre d'art champion et Leia, je l'ai trouvé intéressante. Une espèce de. On voit que c'est des aristos, hein, et c'est d'anciens amants, là, ou en tout cas, ils ont déjà été ensemble. Avant que Leia le quitte et le plaque en disparaissant. Mais c'est ça, c'est très gracieux, on va dire, hein, comme relation. Et à l'inverse, avec Han Solo, que c'est... Moi, j'ai adoré cet aspect-là. La relation Leia et Han là-dedans est impeccable. On se croirait vraiment dans l'Empire contre-attaque.
Eh bien, alors, justement, j'allais te le dire, ça fait partie des points que j'ai notés, moi, c'est sur la caractérisation des personnages que, vraiment, j'ai vraiment trouvé, comme toi, très, très bonne. Alors... Tant Han et Leia que Luke, hein, puisque Luke il est vraiment très proche des films. Donc vraiment, voilà, c'était pour moi c'est le plus gros point positif de cet album. Et évidemment, on en revient encore une fois à l'histoire de Han et Leia, ce qui prouve que c'est bien le point fort de ces deux albums.
Ben tu sais, moi ça c'est pas compliqué là, Han Solo m'a fait rire dans cet album-là.
Ah oui.
Le même genre d'humour de pique et de réflexe, que ce soit avec Leia, que ce soit à un moment donné, il se fait torturer aussi par des criminels, ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait le Han Solo du cinéma, donc chapeau à Greg Pak pour ça. J'ai pas détesté aussi le fameux baron du crime, là, l'organisation criminelle Boss Carpo. Dans le fond, c'est un alien, là, la race des bits et sans vouloir déraper sur le sujet, les bits, c'est ceux qui ont une face de cul. Donc, et c'est ceux dans la cantina, là, les musiciens qui jouaient de la flûte. Donc encore une fois, je crois que c'est ça, c'est pas des francophones qui ont nommé cette race d'aliens pour sûr. Avoir appelé ça des bits. Mais c'est B-I-T-H, hein, je précise, c'est B-I, il n'y a pas de E. Mais c'est ça, c'est quand même une race appréciée là, quand même dans un petit univers Star Wars. Tout, comment dire, l'espèce de relation avec cet empire criminel-là, on va dire, qui est pas à la tête de la planète, hein, mais qui est très très puissant, visiblement, une planète très très corrompue, mais où l'empire est pas présent. Donc là, au début, le plan de Leia et Han est de virer, de créer la zizanie entre les deux. Là, Dark Champion intervient en disant « Bon, ben, on va changer votre plan parce que sinon l'Empire va prendre le contrôle de la planète. » Et finalement, le plan change une troisième fois parce que Boss Carpo apprend tout ça et revire la situation complètement à son avantage. Mais ça va quand même se conclure par sa perte à la fin. Mais bref, c'est ça. J'ai quand même bien aimé tout cet arc-là à l'intérieur de l'arc. Fait que chapeau quand même à Greg Pak pour ça. Même si, c'est ça, malheureusement, le reste, je trouve, vient gâcher tout ça. Du côté de Luke, c'est parce qu'à un moment donné, vas-tu te rendre compte là, que c'est juste une petite racaille? Là?
Ouais.
celle que tu prends pour une grande professeure Jedi.
Non, mais il est naïf comme d'habitude. Il est naïf et gnangnan, et du coup, bah, il se fait avoir.
Ouais.
Mais comme il se fera avoir à la fin de l'Empire Contre-Attaque, quand il arrive sur Bespin, tout gentil et quoi.
Ouais, puis mais j'ai pas détesté quand même le personnage, mais c'est ça. C'est comme par hasard, il rentre dans un village, il tombe sur une utilisatrice de la force, même si c'est minime, là, s'en sert pour tricher aux cartes. Mais tu sais, c'est ça. Il a été guidé par la force, peut-être.
Peut-être. Il l'a pas dit, mais c'était ça. Moi, au rang des choses positives aussi de cet album, c'est le visuel des vaisseaux. Alors autant moi Finnotto, je sais que je l'ai apprécié certaines fois, notamment sur du Marvel. Je l'avais pas du tout aimé quand il a fait Chewbacca par exemple, le volume sur Chewbacca. Je l'avais beaucoup apprécié sur Poe Dameron et là encore une fois, ben j'apprécie pas. J'ai l'impression qu'il a dessiné beaucoup trop vite. Les décors sont vides. C'est rushé. Après on reconnaît très bien les personnages, hein, ils sont bien. Leia, elle est très jolie, par exemple. Enfin, c'est vraiment très bien dessiné. Les impériaux sont corrects, même si Vador pourrait être un petit peu plus soigné. Mais voilà, ça reste les vaisseaux qui m'ont vraiment le plus convaincu. Mais de manière globale, je dirais que le côté dessin dessert cet album. C'est-à-dire que peut-être qu'avec un album plus rempli, un peu plus riche visuellement, peut-être que ça aurait cassé un peu mes impressions négatives de ces épisodes.
Tu vois, sur ce sujet-là, on va être vraiment opposés. Moi, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Peut-être vers la fin, je dirais. Les derniers numéros, on sentait peut-être que ça a été plus rapide, là. Mais même au niveau des décors, bon, évidemment, il y a deux des trois missions qui se passent sur des endroits
Peu déserts. C'est des déserts avec des cailloux, c'est plus simple.
C'est ça, mais c'est ça. Moi, j'adore Filnoto, les visages, tu l'as mentionné, ça, j'ai trouvé que c'était magnifique. Il y a des planches, on croirait du décalque, là, ou tu sais, de la photo, tellement que c'est joli. Et pas juste les pleines pages. Donc des fois c'est des petites cases, mais tellement bien. Non, moi c'est vraiment un style que j'adore, mais c'est ça, je sais que c'est clivant un peu. Je reconnaîtrais par contre ça manque peut-être un peu de dynamisme lors des nombreuses scènes d'action. Des fois on a un petit peu de misère à suivre, surtout vers la fin, là, la fameuse explosion de la planète puis tout ça, là, faut prendre le temps de regarder pour bien comprendre un peu ce qui se passe. Et c'est lui. Mentionnons, tu sais, c'est ça, souvent on va avoir un dessinateur ou plusieurs pour un arc, même pour un seul album, un seul numéro. On va avoir un ou plusieurs coloristes. On va avoir d'autres dessinateurs, encore une fois, et coloristes pour les couvertures. Là, dans la totalité de la job, c'est Filnotto qui s'en charge, couverture et intérieur, et colorisation aussi. Fait que ça, je trouve que c'est quand même digne de mention, et on a une continuité dans le style. Donc ça, c'est quelque chose que je dénonce souvent quand on a plein de dessinateurs différents au fil d'un même arc. Donc, fait que c'est ça. Chapeau quand même à Phil Noto pour la quantité de travail là-dessus. Mais puis pour ce qui est, c'est ça, mentionner les couvertures justement, ben c'est toujours très joli, je trouve. C'est ça, c'est un style qui est accrocheur, mais ce qui est représenté sur ces 8 différentes couvertures-là, je trouve, est pas très accrocheur, honnêtement. Puis je regarde l'album, là, que ce soit le 12 ou le 13, puis je me dis Panini a carrément dû se faire un choix parmi du pas terrible. Là, cette fois-ci, on a des druides qu'on n'avait jamais vus encore dans l'Empire. Donc, bref, pourquoi avoir créé des nouveaux druides encore? Et c'est ça, dans les teintes, ça manque de couleurs, ça manque de... Fait que, à la limite, il y a celle-là où on a Han Solo et Leia un peu comme des mariés, là, parce qu'ils vont au bal, là, tu sais, habillés chic. Donc, celle-là, à la limite, j'ai un peu plus préféré, et celle de l'affrontement Chewbacca-Vador, parce que oui, Chewbacca va affronter Vador oui. dans cet album-là.
Mais d'ailleurs, encore une fois, le fait d'intervenir Vador sur, en plus, une planète désertique comme celle-ci, et vu la proximité qu'il a avec nos héros, il aurait largement pu tous les balayer et les tuer en un coup, franchement, enfin, voilà, bon.
Ben, en fait, il va même les protéger à plusieurs reprises.
Ouais.
Il va défoncer ses hommes, ses officiers puis ses soldats parce qu'ils tirent sur nos héros.
Ben, parce qu'en fait, il veut attirer Luke, donc pour que Luke arrive, voilà. Il faut que ses amis soient en vie. Donc, quand un des soldats tire sur les, sur les héros, ben, lui va les tuer, enfin, va les tuer ses propres troupes ou les battre parce que, ben, il faut pas tuer les héros.
Mm. Mais bref, c'est ça, écoute, moi, au final, là, ben déjà, puis avant de donner une note, là, je vais revenir, on a parlé du marketing que je trouve complètement raté ou trompeur, etc., tu sais, destination hot, bon, d'accord. Là, on a une, la première page de l'arc, c'est l'Empire qui déploie des droïdes, ça, c'est le premier lien, puis sinon, la dernière page, c'est son arrivée à hot, mais tu sais, dans l'espace. Mais c'est tout, c'est... il n'y a rien au niveau intrigue, au niveau...
Mais en fait, il manque un one-shot, tu l'as évoqué tout à l'heure.
Ça va être le premier, probablement, volume, dans le premier volume de la nouvelle série.
Voilà, et c'est dommage, en fait, parce que ça aurait eu beaucoup plus de sens de le rajouter peut-être à la place de la New Hall. On aurait pu faire l'impasse sur la New Hall, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé. Mm-hmm. Donc, Francis, comme je n'ai absolument, et je le confesse, aucun souvenir de cette New Hall, je vais te laisser d'ailleurs en toucher quelques mots.
Ben moi je conclurai avant par contre Loïc, l'aspect de cet arc là, je donnerai vraiment ma note pour cet arc là et après ça pour l'annual et on peut peut-être quand même parler de la décision de Panini de couper ça en deux. Ça cet aspect là tu l'as mentionné, oui il y avait peut-être l'aspect prix, je comprends qu'un 9 volumes ça revient plus cher. Mais là, les gens, comme tu disais, sont obligés d'acheter les deux de toute façon. Fait qu'on se retrouve à payer deux fois 17 euros pour avoir les deux. Et comme tu dis, on peut pas acheter un sans l'autre. Parce que celui-là se termine sur rien. Vraiment, le numéro 12. Et le numéro 13 commence ben, un peu sur rien. Si t'as pas lu le 12, le 13, comme tu dis, c'est sorti de nulle part. Là. C'est... Donc, et celui-là, je dis celui-là parce que j'ai le 12 dans les mains, mais le 12, c'est 5 numéros, et l'autre, ça va être seulement 3 numéros de l'arc. Donc, vraiment, là, t'as pas le choix d'avoir les deux. Fait qu'à ce moment-là, pourquoi les séparer? Ça m'échappe un peu. Pourtant, Panini, des fois, sort des gros volumes épais. J'ai l'impression que c'est ça. C'est vraiment une question de prix, ils voulaient pas avoir un produit trop cher, ils se sont dit les gens une fois qu'ils vont avoir acheté le 12, ils n'auront pas le choix d'acheter le 13.
Ah ben de toute façon, enfin je veux dire si t'as acheté le 12, c'est comme je disais tout à l'heure, ça n'aurait aucun sens de ne pas acheter le 13, à moins que vraiment tu sois pas emballé par l'histoire au point de pas en acheter la conclusion, mais voilà.
Mais bref, c'est ça, vraiment pour moi une fin décevante, trop compacte, il se passe un peu trop n'importe quoi aussi là, avec l'histoire des êtres minéraux, là, des rochers vivants, là. De toute taille hein, d'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais ça va des tout petits à la grosseur de la planète, là. Donc c'est ça, fait que tu vois, moi malgré tous les efforts de Greg Pak puis les bons coups, je lui donnais, puis moi... Les graphismes, pour moi, sont un plus. Je sais que pour toi, sont un moins. Mais pour moi, c'est du positif. Fait que, tu vois, même avec ce positif-là, j'y donne un 65%, là, donc un 13 sur 20 à cet arc-là.
Eh ben écoute, moi je vais être beaucoup plus dur que toi parce que je lui donnerai. Alors j'hésite en fait à lui mettre à peine la moyenne parce que je trouve qu'il remplit pas du tout en plus sa mission de faire le lien entre la série et l'épisode 5. Donc non, je vais lui mettre un 11 parce qu'il y a quand même des choses que j'ai pas détestées. Mais voilà, je décide quand même de le sanctionner et d'autant plus si on rajoute le choix de Panini de le couper en deux. Si en plus on rajoute le choix de publier l'annual, donc voilà, ça sera vraiment un 11, un petit 11.
Ben c'est excellent, tu vois, je vais attaquer l'annual parce que justement tu viens de le mentionner. Étrangement, je suis loin d'être un fan de ce concept-là, des annuals. Souvent, je trouve que c'est de la perte de temps solide, même s'il y en a eu des bons. Je pense entre autres à l'introduction du fameux espion de la rébellion sur Coruscant là, qui essaye d'assassiner l'Empereur et qu'on avait retrouvé par après dans la série Star Wars, donc c'était quand même très bien. Fait que moi, tu vois, je vais défendre Panini avec la décision de mettre cet annual-là numéro 4, l'annual 4, dans cet album-là, parce que j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un annual que j'ai adoré, contre toute attente, surtout quand tu vois la couverture de Tradmore, là, qu'on dirait vraiment un comics jeunesse, c'est cartoon, pour moi c'est atroce, mais peut-être qu'il y en a qui aiment ce style-là, là, mais c'est trop coloré, trop cartoon, on reconnaît, c'est ça, c'est un style vraiment, là, très très différent de ce qu'on a habituellement avec du Marvel, mais c'est souvent ça avec les annuals, hein. Souvent ils vont confier ça à des gens qu'on est moins habitué de voir. Par contre, une fois qu'on tombe dedans, ben, peut-être préciser déjà, ça se passe en l'an 0, donc on n'est pas du tout dans la même timeline que ce qu'on vient de parler avec l'arc, le dernier arc de la série. C'est même précisé dès le départ qu'on est juste avant le Star Wars numéro 8. Donc au tout début de la série, on est vraiment là, donc avant que dans la série Star Wars, on découvre Sana Staros comme la femme de Han Solo. Donc c'est ça, c'est précisé. Et on a un 30 pages ici, hein, fait que on a quand même de la place pour développer plus là, que dans ben des one-shots. Ici, c'est ça, on suit Sana Staros principalement, qui veut... pas qui arnaque, mais qui est à la poursuite de reliques Sith, okay, des anciens sabres Sith. Mais en fait, c'était une paire de sabres. C'était deux sabres identiques. Et elle se dit, tiens, je vais en vendre un à l'Empire, qui court après les sabres, et un à une organisation criminelle. Mais là, les deux se disent, on s'est fait arnaquer, et lui court après. En fait, l'Empire, c'est Vador. Quand il vient réceptionner le colis au nom de l'Empereur, ben là, il s'aperçoit qu'il en manque un des deux. Parce que les officiers s'en étaient pas aperçus, évidemment, connaissent moins toute cette histoire-là des Sith. Mais c'est ça. Donc, Sana qui a essayé de doubler les deux et qui se fait rattraper. Comme souvent, hein, Sana Staros, pour les gens qui n'ont aucune idée de c'est qui, ben déjà, je vous dirais, normalement, si vous avez lu les autres Star Wars, vous devriez savoir c'est qui. Et elle est même apparue aussi dans un roman il n'y a pas si longtemps, dans Baroud d'honneur. Donc moi, c'est un personnage que j'ai appris à adorer, que je trouve qui vient vraiment apporter quelque chose à notre... Parce qu'habituellement, elle travaille surtout en trio. Elle était aussi présente dans Docteur Aphra, dans la série Docteur Aphra.
Oui, c'est vrai.
Et dans l'audiobook, l'audio-drama sur Docteur Aphra qui est sorti récemment, parce que c'est aussi une ancienne compagne de cœur, non seulement d'Han Solo, mais aussi du Docteur Aphra. Bref, c'est ça ici. On a aussi Luke qui est présent, qui venait réceptionner, lui, au même endroit, sur la même planète, de l'argent pour la rébellion. En fait, on apprend que la rébellion est en partie financée par des paris sportifs. C'est un peu un casino, là, dans le fond. C'est ça, on va même avoir droit à une course de pod pilotée par Luke, donc un petit rappel d'Anakin ici, et un duel aussi entre R2-D2 et Sana Staros, qui ne se connaissent pas encore à ce moment-là. Donc, comme je vous disais, c'est avant ce qu'on avait eu dans la série Star Wars. Fait que, bref, c'est ça, c'est rocambolesque comme histoire, mais moi j'ai beaucoup apprécié. Un vrai petit blockbuster, ça passe vite. C'est ça, tout l'aspect que, bon, la rébellion est financée. Moi, j'adore quand on apprend des nouveaux détails sur la rébellion. Donc là, le fait que ce soit en partie financé par, on va dire, ils ont une cote un peu là, sur les paris sportifs de cet endroit-là, je trouvais ça très original. Encore une fois, on a Vador, mais bon, c'est ça. Je me dis souvent, c'est rendu inévitable. Il faut que Vador soit dans toutes les histoires. Mais on n'aura pas nécessairement de duel avec Luke cette fois-ci, au moins. Ni avec Sana Staros, là, fait que c'est quand même bien. Mais c'est ça, Vador qui va voir la course de pod et que c'est Luke qui pilote. Et, mais il ne sait pas, évidemment, là, mais c'est ça, va quand même être impressionné qu'un humain s'en tire bien en course de pod comme lui autrefois. Mais bref, c'est ça. C'est rocambolesque, ça explose de partout, c'est coloré, tout ça. Par contre, côté graphisme, peut-être mentionner que malheureusement, on a 3 dessinateurs ici. Et plusieurs coloristes, donc bon, ça c'est mon calvaire, vous savez, je déteste quand c'est plusieurs dessinateurs, mais ici le concept, j'ai trouvé pour un annual, c'est qu'ils se sont dit on va mettre un dessinateur par personnage, parce que les personnages ne se croiseront pas, les 3 personnages principaux, donc Sana Staros, Luke Skywalker et Dark Vador, et j'ai trouvé que c'était quand même... Bon, c'était une façon plus ou moins originale de diviser la tâche à 3. J'aime mieux ça que quand un numéro commence avec un dessinateur et là, tout à coup, on tourne la page, on est avec complètement autre chose. Là, cette fois-ci, c'est le cas, mais c'est prévu, c'est ça. C'est vraiment, on suit 3 styles différents. Et j'ai trouvé que Mark Laming, celui qui fait tout l'arc, on va dire, de Sana Staros, était vraiment excellent. J'ai beaucoup apprécié. C'est un style assez détaillé, là, vraiment au trait de stylo très, très fin. C'est lui qui nous avait signé, entre autres, le one-shot de Beckett et dans l'anthologie là, des Age of Rebellion. C'est lui qui avait fait Tarkin et Boba Fett. Donc, ceux qui se souviennent, Boba Fett, c'était très joli, très coloré, tout ça. Personnellement, j'espère qu'on le reverra sur du Star Wars. Et bon, ben, spoilers, c'est lui qui a fait Sybil Vador en partie. Donc, oui, on va le revoir. Donc, Target Vader. Mais c'est ça, c'est moi j'ai trouvé ça très joli, et pour Sana Staros que je trouve vraiment vraiment très cool dans cet annual. Fait que ceux qui les lisent en numéro unique, là, je vous conseille quand même cet annual là, même s'il apporte rien en termes de construction au récit. On s'entend là, c'est pas quelque chose qui bâtit quelque chose avec des personnages qu'on va revoir plus tard, tout ça, non. C'est ça, j'ai pas mentionné entre autres que les sabres Sith, comme tous les artefacts Sith qu'on voit dans le canon ces temps-ci, ont tendance à faire enrager les gens là, et que Vador va en utiliser un et va s'en rendre compte qu'il devient lui-même enragé, et Luke aussi va en utiliser un et va décimer une troupe de Stormtroopers là, et va se rendre compte que non, c'est pas lui. Fait qu'à la fin, et Luke et Vador vont décider chacun de détruire le sabre qui est en leur possession. Tout est bien qui finit bien. L'empereur n'aura pas ces 2 sabres-là. Mais c'est ça. Un bon petit annual, je vous le conseille. Et moi, je veux plus de Sana Staros. Si j'avais une note à donner juste à ce numéro-là, tu vois, je lui donnerais un bon 18 sur
20. Oh là oui, carrément.
Fait que, ouais, j'ai beaucoup apprécié et l'histoire et au dessin, même si les 2 autres dessinateurs, c'est moins bien que Mark Laming, mais quand même, c'était très, très bien. Fait que ça peut un peu remonter, si on avait divisé nos notes, tout ça, là, ça peut un peu remonter l'album numéro 13. Comme je vous dis, je trouve que c'est un annual, un bon divertissement, même si c'est pas un essentiel. On s'entend, c'est pas ça qui va vous faire comprendre quelque chose que vous aviez rien compris dans Star Wars, là. Ce n'est qu'un pur divertissement style blockbuster.
Et ben voilà, j'avais moi aucun souvenir. Moi, sur ton conseil, je vais aller me le relire, puisqu'il était paru à l'époque dans un magazine hors-série chez Panini. Donc c'est pour ça que je dis que je l'ai déjà lu, mais je n'en ai plus aucun souvenir. Donc j'irai le relire à l'occasion.
C'est souvent le cas des annuaires, là. On les oublie très vite, parce que c'est ça, hein, c'est détaché de l'histoire, donc... Mais je me dis, si au moins c'est agréable, ben, la mission accomplie.
C'est ça. Eh ben, Francis, je te propose qu'on se pose et puis qu'on discute encore 5 minutes avant de se quitter. Voilà, on est posé. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose avant avant que je parle un petit peu de ce que j'avais envie d'évoquer?
Oh, ben rien en particulier. Écoutez, on enregistre dans la saison des fêtes, hein, donc moi, je peux peut-être conseiller... mon plus vieux des deux garçons a reçu comme cadeau de fête le Monopoly version de Mandalorian, donc Deluxe, à ne pas confondre avec la version de l'enfant. C'est celui que j'avais conseillé là, dans l'épisode des cadeaux, justement, des suggestions cadeaux. Et on a fait quelques parties jusqu'à maintenant, et je dois dire que c'est quand même très agréable, des règles assez différentes du Monopoly standard. On est très saison 1 du Mandalorian, là, vraiment, là, dans les actions, les personnages, tout ça. Mais c'est ça, j'ai bien apprécié. Et en plus, pour vous, en France, il est disponible en français. Malheureusement, nous, en Amérique, pour l'instant, il est disponible uniquement en anglais. Mais en France, j'ai vérifié, c'est vraiment une version française.
Oui, je l'ai déjà vu en magasin. Il y a d'ailleurs, cette année, les magasins avaient sorti toute une déclinaison des variantes de Monopoly en veux-tu, en voilà. Et j'avoue qu'il m'avait fait de l'œil aussi. Mais on est parti sur une autre version, nous, parce qu'on a acheté le Monopoly Friends à notre fille. Donc rien à voir avec l'univers Star Wars.
Non, complètement autre chose.
Et moi, je vais pas parler tout de suite de Noël. J'évoquerai ça dans une future émission. Par contre, j'ai bien envie de faire un rapide retour sur mon avis de ce qui a été annoncé pour le futur de la saga Star Wars. Qui a été commenté en long, en large et en travers. On a fait une émission sur Star Wars en direct, on en a beaucoup beaucoup discuté sur le Discord. Mais voilà, pour ceux qui ont envie de m'entendre en live, et puis ça me fait plaisir de défendre un petit peu Disney pour une fois, voilà. Je vais prendre leur parti, puisque je pense qu'en fait Kathleen Kennedy nous écoute, Francis. Elle écoute les émissions de Star Wars en direct, oui. Et elle m'a entendu beaucoup de fois dire, on a chacun notre Star Wars, et elle s'est dit, mais écoute, c'est exactement ça qu'on a besoin comme stratégie pour le futur de la saga Star Wars. On a besoin de Loïc et on a besoin de sa vision. à savoir que voilà, pour moi, ce qu'ils ont annoncé, c'est très ambitieux. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup le reprochent, et encore tout, à mon avis, n'est pas annoncé. On n'a pas de nouvelles de séries animées régulières, on n'a pas de nouvelles sur d'autres projets qui avaient déjà été évoqués. Mais je trouve qu'il y en a pour tout le monde, vraiment au sens large du terme. C'est-à-dire que vous êtes fan de Star Wars, bah vous aimerez peut-être pas Star Wars Droids, mais vous y trouverez peut-être votre compte dans la série Ahsoka ou Rangers of the New Republic. Vous aimez bien les univers un peu barrés, ben tournez-vous vers Waititi. Vous adorez les X-Wing, on va vous faire Rogue Squadron, peu importe la période dans laquelle il se passe. Voilà, je pense que vraiment, vous aimez les Jedi, il y a du Ahsoka, peut-être d'autres séries animées qui vont être en lien avec des Jedi, etc. Il y a la Haute République. Franchement, je trouve que c'est super engageant ce qu'ils ont annoncé là. Évidemment, c'est à plus ou moins moyen terme, hein, puisque tout ne va pas arriver tout de suite. Maintenant, je pense que qui imaginait, parce qu'on entend beaucoup entendu, oui, bah Disney est en train de tuer la saga, ils inondent le marché, nanana. Mais qui imaginait que Disney allait laisser la saga en pause entre la fin de l'épisode 9 et le prochain film cinéma? Enfin, franchement, pour moi, c'était évident que la saga, voilà, là, ils sont en train de remplir un trou entre deux films. Rien ne nous dit que le rythme, s'ils relancent une trilogie ou une série de films, rien ne nous dit que le rythme sera aussi conséquent dans le futur. Hein. Je veux dire, quand tu auras les films et que le marketing des films, peut-être qu'il y aura moins de séries sur Disney+, moins de projets, ou de manière détournée, ou plus version téléfilm. Donc voilà, franchement, je trouve vraiment, le Bad Batch, j'ai adoré la bande-annonce, j'ai bien regardé, j'ai l'impression qu'on aura clone contre clone. Hein, vraiment, pour moi, le Bad Batch, ça sera vraiment une série où le Bad Batch va déserter et sera poursuivi par d'autres clones, pourquoi pas Cody d'ailleurs. On a Kenobi qui m'a un peu refroidi quand j'ai su qu'on nous annonce un match retour avec Anakin contre Obi-Wan. Maintenant, je leur laisse le bénéfice du doute, peut-être que ce sera bien fait, peut-être que ce sera intelligent, on verra bien. Ahsoka, évidemment, Ahsoka, je suis très 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 client, forcément. Qu'est-ce qui reste d'autre? Rangers of the New Republic, ça m'intrigue un petit peu. Si c'est pour pour botter le cul des impériaux, j'ai bien envie de voir ça. Enfin, des impériaux qui restent, j'ai bien envie de voir ça. Lando, franchement, c'est pas un projet qui m'intéresse plus que ça, mais voilà. Acolyte, c'est un projet qui m'excite bien. On a parlé tout à l'heure de la Haute République. La Haute République, c'est 200 ans d'histoire Star Wars. On nous annonce que cette série, elle va se passer 50 ans avant la menace fantôme. J'ai très très envie d'avoir à nouveau une incursion dans l'univers visuel de cette époque où tout était beau, tout était propre, tout était grandiloquent, où les cuivres étaient bien lustrés, où les appareils étaient neufs. Franchement, même si c'est en lien avec la saga, c'est-à-dire qu'on retombe sur les pattes de l'histoire, peut-être Plagueis ou le maître de Plagueis, parce que je pense pas qu'on puisse voir Dark Sidious, il me semblera être à peine né à cette époque-là, donc je pense pas que ce soit à ce moment-là qu'on va le voir, et pourquoi pas une série Dark Sidious après, hein, parce que je rappelle qu'on a quand même un acteur jeune qui avait été casté, parce que le clone de Palpatine dans l'épisode 9, on l'a vu. Donc c'est officiellement le visage de Palpatine jeune, donc ils peuvent très bien nous annoncer la jeunesse de Palpatine en série. Hein. Rappelons que George Lucas avait prévu de faire une série live avec les amours de Palpatine, donc comme les histoires se recyclent dans l'univers Star Wars à l'infini, ce qui n'a pas été montré à une époque resservira plus tard, donc ça peut arriver. On en parlait, je ne sais plus si c'était dans la dernière émission, Book of Boba Fett, voilà. Est-ce que ce sera bien? Est-ce que ça va m'intéresser ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est méritant. Et puis, avec cette technique du volume, ça me fait vraiment pas peur pour le côté visuel, même si de temps en temps, Mandalorian, on peut reprocher certains couloirs un peu vides ou des problèmes de raccord un petit peu sur les décors, mais ça resterait quand même très très diffus. En toute sincérité, bon, ça reste quand même le haut du panier. Et puis la technologie ne va faire que aller en s'améliorant. Donc, je suis quand même assez hyper confiant. Je suis très content de ce qu'ils ont annoncé. J'ai hâte de voir la plupart des projets. Certains seront sans doute plaisants, d'autres peut-être vont nous décevoir. Mais tout ça va nous donner l'occasion aussi de débattre. C'est ça qu'on a fait ces derniers temps aussi, depuis l'épisode 9. On a débattu quand même, nous, de notre côté, je veux dire, entre nous, Star Wars en direct et nos auditeurs, on a débattu de manière beaucoup plus saine que ce qu'on peut trouver sur Internet, et ça, c'était quand même plaisant. Donc, encore une fois, on vous enjoint à nous rejoindre, à rejoindre notre communauté Discord pour participer à ces débats qui sont vraiment absolument pas toxiques, et pourtant, on n'a vraiment pas tous les mêmes visions, et il suffit de suivre nos fils Discord pour s'en rendre compte.
Exact.
Voilà, ça c'était pour mon petit avis sur les dernières annonces qui va conclure donc cette édition de Star Wars en direct, hein, pour notre épisode le plus long de cette dernière chronique. Donc, vous pourrez retrouver Francis et moi comme d'habitude sur nos réseaux sociaux, sur ce Discord dont on parle tant, mais aussi dans les commentaires des publications Facebook notamment. Et puis vous pouvez nous rejoindre aussi sur la chaîne YouTube, Twitter et Instagram, évidemment, on est présent partout. Et encore une fois, rejoignez-nous sur Discord, venez partager avec nous, retrouver cette ambiance que beaucoup regrettent. Et ben, chez nous, elle est toujours là, elle est toujours présente. Peut-être aussi du fait qu'on n'est pas trop nombreux. On verra bien si le futur, ça reste comme ça ou pas. Et n'hésitez pas à partager nos épisodes, hein, sur vos réseaux sociaux. Aidez-nous à augmenter notre visibilité, faites-en profiter vos amis qui pourront venir ensuite retrouver nos épisodes sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Google Podcast et aussi sur Apple Podcast. Donc de la part de Francis et de ma part, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.